Chapitre 4 L'après-midi dans un parc. Jean-Prudence Michon de Cérisol arriva vers la fin d'août à Ribamour. Sur les 3 heures du matin, tout étant clos, les lampes même du baccarat éteintes, on entendit le roulement sans chaos d'une automobile, et puis, devant l'hôtel Gaston Phébus, un arrêt, des trépidations, des appels de trompe. Personne ne paraissant, le seul clair de lune vit sortir de voiture un jeune homme maigre qui ôta ses lunettes, poussa quelques jurements et, muni d'une canne pareille à un bélier que son chauffeur lui avait tendue avec effort, fut en asséné quelques coups dans la porte de l'hôtel dont il dédaigna la sonnette. De nouveau, rien ne se montra, sinon quelques clients aux fenêtres. L'un d'eux ayant marqué très haut son dégoût de ne pouvoir dormir, une voix perçante mordante demanda « Vous voudriez peut-être qu'on aille vous bercer ?» L'inconnu, interpellé à ce moment dans sa chambre par une autre voix, mais indistincte, se tut. Le chauffeur éclata de rire et Cérisol recommença son tapage. Cependant, abîmé dans ce néant où un veilleur sans doute est seul à choir, celui de l'hôtel Gaston Phébus, sentait qu'il se passait à l'extérieur quelque chose de déplorable qui, tôt ou tard, le réveillerait. Et peu à peu, il émergea des ténèbres en s'écriant « Qu'est-ce qu'il y a, Dieu, Bouban ?» À ce même moment, parut M. Copana, le patron, homme bigle, minime, un peu tortu, que sa femme et une récente faillite, la sienne, conservaient dans l'aigre. Il alla ouvrir en personne, tandis qu'il observait d'une voix de tête. « Je ne sais pas qui c'est, mais vous pourriez faire plus doucement. »« Monsieur Copana, répondit le jeune homme, si vous savez réveiller les gens avec un éventail, vous m'enseignerez. » « C'est monsieur de Cérisol !» fit l'hôtelier, radouci de reconnaître un client d'importance. « Votre valet de chambre, oui, est bienvenu retenir votre appartement, mais on vous attendait plus que de ce soir. »« Ah oui, c'est la faute de mon mécanicien. »« Oh, on est si mal servi aujourd'hui !» déplora l'hôtelier. « Et toi, imbécile » dit-il au veilleur, « est-ce que tu ne pouvais pas ouvrir monsieur le comte ?» Alors, éclaire. La lumière électrique ne voulut pas être. L'appartement de Cérisol donnait au nord ou au midi. Son valet de chambre couchait en ville avec les clés. Il n'y avait rien à boire. Toutes les choses qui lui permirent de s'irriter sur l'escalier et davantage le long du couloir et fortement dans sa chambre, Copana mâchait sa bile avec servilité. Il pensait à sa femme, une levantine, qui le trompait depuis longtemps avec des valets en foule, et combien de plaisir il aurait eu à la battre si elle n'avait pas été plus forte que lui. Et à la longue, les clients de l'hôtel purent se rendormir. Le lendemain, on vint prévenir Cérisol à sa toilette que Vitalis désirait le voir. Aussitôt introduit, les deux jeunes gens se serrèrent la main en se demandant à la fois « Allez, quoi de neuf ?» À la fois, ils s'aperçurent, une fois de plus, que les choses les plus rares, ce sont les neuves. Cependant, Cérisol, ayant mis à son complet couleur de la bête le sceau d'un plastron pruné or, fut prêt à sortir, ce qu'il fit en longues enjambées, en traînant contre sa jambe, plus qu'il ne le portait, un de ses bâtons de fer dit « cannes d'entraînement qui sont d'un poids extrême. » Vitalis, qui avait pris les devants, le regardait venir, qui marchait anguleusement et avec souplesse, comme certains fauves que l'on voit toujours prêts à se détendre. Mais une tête hardiment modelée et de ses yeux couleur d'une source qui coule sur les herbages, un nez en éperon, le sarcasme de sa bouche. Vitalis savait qu'à la moindre contrariété, ce visage impérieux se tendait comme la main de l'aigle. Peut-être ressemblait-il alors à ce foudre, jadis pour César, jailli des Pyrénées, le maréchal Ferrand, Prudence Michon, duc de Cerisol, prince de Brickenfußberg, maréchal de France. Ils s'arrêtèrent sur la porte de Vitalis. La rue bordée d'acacias, boule d'un côté de l'autre, formait l'enjeu jardin public. À l'abri d'un pont de chemin de fer qui l'enjambait, des bourricots au repos agitaient leurs sonnailles pour chasser les mouches. Tout seul, dans l'accablante lumière, on voyait un gamin courir. Sa chaussure trop lourde le faisait billarder, tandis que son ombre tressautait devant lui sur la poudre du chemin. « Que ferons-nous ? » demanda Terizol. « Vos paperasses, pendant que je déjeunerai, il est que 2 heures, et c'est peut-être un peu tard pour que vous soyez mon hôte. »« Assurément, oui, mais j'irai vous rejoindre tout à l'heure. Et puisque votre auto est à réparer, nous pourrons prendre une voiture jusqu'à Saint-Marie. Vous n'y êtes jamais allé, ou l'eau est exquise ?»« fit son compagnon, « oh l'eau, je sors de mon bain. Mais je vous assure qu'avec un peu de pernaud avec... » « Ah, si, ce n'est pas genre soit fou, mais il faut profiter de son reste tant qu'elle n'est pas défendue. » Ils se retrouvèrent quelques heures, 2 heures plus tard, à l'ombre des platanes, devant une bâtisse où le plâtras se jouait à travers les sarrasinesques et le Louis XV et le gothique. C'était le casino de Ribamour, et Cerisol, à qui ce monstre était familier, ne paraissait pas en souffrir. Peut-être n'avait-il pas d'opinion sur l'architecture, quoi qu'il en eût sur beaucoup de choses. Il les défendait brillamment à la manière de ses généraux qui, ayant jeté de grandes forces dans une bicoque, se maintiennent surtout par des sorties. Le long de la terrasse où les jeunes gens étaient assis, une balustrade de ciment multipliait les entrelacs d'un céleri Dominique Vallagren, ou peut-être d'une treille. Les grappes en étaient figurées par des lampions de couleur imagination pleine de fraîcheur, affirmaient les habitants qui en tiraient vanité. Il y en avait plusieurs là qui buvaient, c'était leur coutume. « À propos, dit Vitalis, vous recevrez aujourd'hui ou demain un carton de Madame de Charite. Elle donne une espèce de partie de jardin en l'honneur, je pense, de sa fille cadette qui est de retour. Ah, oh, est-ce celle qui était couleur de prairie ou si elle a changé comme l'herbe ? Le clerc eut un instant de réflexion. Mais le fait est qu'elle tient un peu de l'olive, mais non pas sans agrément. Si vous l'aviez vue à cette époque avec les cheveux dans le dos, et de ses bras blancs à la jour, faits de dentelle en papier, qu'on lui voyait monter sous... » Et Vitalis s'arrêta brusquement et devint rouge. Mais Cerisol eut l'air de ne pas avoir à s'en apercevoir. « Elle m'avait plutôt, dit-il, laissé le souvenir d'une de ses fillettes, devenues insupportables depuis qu'on ne les claque plus assez. Et votre patronne, ô forte union, reviendra-t-elle ? « Je pense, répondit le clerc, tout près de rougir encore. » C'est qu'il n'avait jamais fait confidence à son ami, jusqu'où il poussait l'imitation de ce héros de Bazoches, dont le cœur, pareil au sien, avait jadis fleuri parmi les rosemousses et les fraisiers et dans l'ombre d'un jardin de notaire, dont les murailles laissent de haut pendre un jasmin. « A-t-elle toujours l'air d'une belle armoire en cœur de noyer, pleine de linge et des plus solides parfums ?»« Mon Dieu, je ne vois pas. »« Bon, je ne suis pas bien assuré de ma comparaison, et qu'il n'y aille pas une âme derrière les panneaux, plus passionnée que celle des lavandes. »« Elle a une façon de se mordre les lèvres ou de se taire pour répondre. »« On peut mettre aussi du girofle dans une armoire. » « Évidemment. » Cerisol regarda son compagnon. « Ah, ça, dit-il, est-ce que vous auriez des corps et que je vous marche dessus ? Vous en parliez autrefois d'une autre abondance. Vitalis tourna court. Oh, ne pensez-vous pas, demanda-t-il, qu'il est l'heure de partir ? Leur Victoria attendait devant la grille du jardin, où les deux jeunes gens la rejoignirent. À Argouette, Vitalis s'arrêta chez sa tante, mais on repartit presque aussitôt pour descendre à l'auberge Salienave, dans le village suivant, qui était Carès. La tonnelle, au fond du potager, y surplombait la plaine du Gave, dont une longue allée de platanes coupait en deux les maïs mûrissants et les prés. À travers des massifs de trembles, de vergues, des peupliers en fil, entre les taches d'une verdure inégale, on voyait mirailler la rivière au pied des hauteurs et des rocs de Ribes. Tandis que ses risoles, avec la sagesse d'un vieillard ou d'un officier en retraite, battaient son absinthe d'une eau, dont la fraîcheur encore se ressentait assez des abîmes du sol pour voiler le cristal. « Eh bien, viendrez-vous à Castabala ?» lui demanda son compagnon. « À Castabala ?» Oui, c'est le manoir de Madame de Charite. Elle est d'origine italienne et l'a montré mais ainsi en souvenir. Oh, souvenir de je ne sais pas quoi, Castel Castabala. Ah, oh, chaste balai. Chut, non, ne le répétez pas. Et qui trouve-t-on dans cette cassine? Sa fille aînée d'abord, avec son gendre. « Wolfgang et Schepaldo. »« Ah, ce gros rose qui a l'air un petit salé, on l'appelle le prince du pétrole, je me rappelle même pas pourquoi. »« Ah si, voici, expliqua Vitalis. Son père était à Bakou, chez des seigneurs turcomans, ou circassiens, à qui il était très dévoué, dévoué au point de passer les viandes à table et de faire les lits. » Il défie si bien celui de l'institutrice allemande, étant, paraît-il, assez beau gars, qu'elle a conçu des espérances. Ah, c'était le prince. Oui, on ne peut rien vous cacher. Mais l'homme dévoué, qui fâcheusement était déjà marié dans son pays basque, se sauva dans le Caucase ou par là. Les riches seigneurs qui ne pouvaient se passer de lui l'envoyèrent supplier de revenir par une sotnia de cosaques, lesquels lièrent sur un cheval, comme Mazeppa, oui, comme Mazeppa, et ramenèrent le tout à coups de sangle. Là-dessus, mariage chez le pape, et entre-temps, la première épouse étant morte, Wolfgang naquit légitime ou à peu près. Toujours est-il qu'il ne peut relier Fraulein pour sa mère. C'est d'elle que vint la première galette et le premier pétrole, d'elle ou plutôt de ses maîtres, tant elle avait su leur aspirer d'affection. Aujourd'hui, elle vit à Cambo, et le prince, comme vous savez sans doute, s'est lancé dans les automobiles. Oh, si je le sais, c'est lui qui avait prêté la sienne pour ses infâmes corridas, où elle remplaçait les picadors. C'est vrai que lui ne la montait pas, car en fait de bravoure. Oh, lui non plus. Mais mauvais, hein, en revanche, avare, vaniteux. Non, je t'ai plus. Sa belle-mère l'adore, à ce qu'il semble. Sa femme, un peu moins. Et qu'y a-t-il plus, comme vous dites ici, continua Cérisol. Pouf, le genre du cru, monsieur Lesca, les Aharon, les Aroski, qui viennent d'arriver. Vous connaissez? « Ah, les armes, scarum, oh, un peu, mais meubles loufoques. Et lui, cartonne-t-il ici ?»« Oui, depuis l'autre jour, qu'il est à un bout de partie. » Et il s'enfile. « Votre patron aussi, » dit Cérisol à brûle-pourpoint, « car il joue et gros. »« Bon, une fois, en passant. » Ce n'est pas la première fois, vous entendez dire qu'il y laissera sa peau et celle de ses clients. » « Oh non, allons donc, c'est l'homme le plus sûr. » Mais ce sujet lui paraissait pénible. Il rompit les chiens. Monsieur Lesca, dit-il, l'avez-vous jamais vu jouer ?
Oh, comme tout le monde, dans nos douces Pyrénées. Chez nous, ce n'est pas l'amour qu'il faut dire, mais le baccarat, tyran des hommes et des dieux. Votre cousin, c'est bien ce vieux homme, vaguement banquier, beaucoup de branches, des cheveux blancs et des yeux rares, pleins de mépris et de feu.
Vitalis fit signe que oui.
Oui, je l'ai vu et ressenti. Ah, quelle banque! Il aurait gagné des lustres s'il avait pris la peine de les décrocher. Et votre beau Désime ne joue jamais devant Monsieur Lesca, lui. Mais ni l'un ni l'autre, je pense, à Rimamour.
Rarement, quoique l'occasion ne leur manque pas cette année. Imaginez qu'il nous a crevé dessus tout un nuage de croupiers, de philosophes, d'aigres fins. Tous les portiers du paradis, quoi, et prêts à vous montrer le chemin de s'en aller avec les anges.
Je brûle de les voir. Si on rentrerait.
Le soleil était déjà bas, la plaine d'Argouette obliquement illuminée et comme florissante d'une moisson de lumière.
Oh, tout, est-ce que vous avez bu ? Demanda Vitalis au cocher. Oh, mon jus, c'est goût. Alors en route, au casino.
Et l'on partit dans la poussière qui semblait d'or rose et dans le bruit des grelots.
Ah, vous verrez encore chez Madame de Charite un jésuite, le père Nicole. Ah oui, je l'ai rencontré chez mes cousins Château-Gaillard, dont il a dirigé un de leurs fils. Et c'est un prêtre charmant.
Vous aimez donc les jésuites ? Demanda Vitalis, qui était jeune.
Oh, plus que Jansénius, répondit l'autre, en adoucissant un sourire sarcastique.
Zérizol fut à Castabala le lendemain.
N'arrivant où que ce fût jamais qu'en retard, il y avait trouvé une compagnie assez nombreuse, partagée déjà entre le tennis et le croquet dont au loin s'entendaient les cris. Les alentours de Castabala figuraient, dans l'idée d'Herminie de Charite, un jardin à l'italienne. Il y avait des rocailles, quatre ou cinq ifs dans des terrines vertes. Plus loin, Diane moussue continuait de régner sur une cressonnière. À gauche, du même côté que la Réunion, deux rangs de cyprès alternaient leurs noirceurs pointues jusque au seuil d'une rotonde en ciment, copiée à Trianon sur le temple de l'amour. Mais lui, le dieu funeste et désirable, il était remplacé par une de ces négresses qu'on fabrique par milliers à Venise pour les mauvais lieux. Celle-ci élevait vers le ciel, que plus rien n'irrite, deux lampes dont l'une, le globe, en était cassé. Et Guiche l'avait dénommée Madame Otello. Tout autour s'arrondissait une table de marbre officiel. C'est là qu'on servait le thé que se tenait aujourd'hui Vitalis entre Madame Baudésime et Sabine.
« Tiens, dit celle-ci, voilà Monsieur de Cérizol. Comme il est long, on l'a privé de pain, je pense, depuis longtemps. »
Il se dirigeait vers le tennis après avoir, en contre-haut des jardins, longé le castel, espèce de fabrique à la façon d'Hubert Robert, orné de niches et de colonnes. La terrasse qu'il traversait en diagonale faisait voir des urnes, des sphinx, des balustres, mais où Madame de Charite avait mêlé des vases d'un bleu faux, prépanamide de style dont l'émail s'écaillait. Il lui rappelait sa jeunesse, disait-elle, avec une ingénuité que Sabine jugeait hors de propos. Mais il y avait de belles ombres, du gazon, des fleurs de France, glaïeul, iris, pivoine, giroflées. Les giroflées étaient d'un or sombre, les pivoines pareilles à des flaques de sang, et les glaïeuls s'élançaient comme un désir du printemps. Plus loin, c'était une prairie, telle qu'un grand bouclier vert, et qu'on eût dit descendant de Verlouse, que la gonflait une fécondité secrète.
Les quatre chiens de Sabine y bâillaient au soleil, attendant peut-être qu'elle y va rouler avec eux l'impudence de son corps fantasque. Parfois, quand tout la tenait assurée qu'elle n'était que cinq, Guiche faisait le poteau, figure de gymnastique, où l'on se tient sur les mains en dardant les jambes. Cependant, que ses jupes retombées en saule pleureur découvrait entre les bas et le pantalon le double hiatus d'une chair mate au dernier bistrot. « Jambes divines !» avait dit M. Dessous-Cazot, à qui le hasard les avait trahis. « Jambes de Diane à sa première communion, jambes dont la perfection cruelle inspire au cœur bien-né plus de religion encore que de désir. » Enfin, à droite de la maison, croissait un bosquet de cèdres que Madame de Charite avait dénommé la Pineraie et dont l'estrade joignait l'orangerie à la pelouse du tennis. Celle-ci, fraîchement tondue, arrosée, brillait d'un vert d'oxyde que des asphodèles, au hasard planté par Guiche, tachaient le sang et des gens qu'on y voyait courir en avant et en arrière avait l'air de figurer un quadrille, où parmi d'autres images mouvantes étaient Wolfgang et Tchepalao en pantalon et souliers blancs, et dont la chemise à raies groseilles, ornée d'une cravate d'azur, faisait naître dans les cœurs une espèce d'épouvante. Il reçut ses risoles avec autant de cordialité que de bruit. Les airs lui roulaient dans la salive, comme les olives sous la meule. Et, laissant là, sans plus d'excuses, les autres joueurs sur un avantage de leur part, « Je vais, dit-il, vous conduire à la maman. » Madame de Charite était au croquet, où son maillet languissant et froid des partenaires exilait sa boule au carentons les plus imprévus. Elle accueillit de nouveaux venus avec la même faveur qu'avait fait son gendre, quoique plus discrète, et le présenta à sa fille aînée, personne de beaucoup d'agrément, et qui se querellait avec le capitaine Laharan, touchant le cercle du milieu qui avait sonné ou qui n'avait pas. Elle s'interrompit pour tourner vers le jeune homme des yeux bleus un peu à fleur de tête, et la cerise de sa bouche. « Et si vous voulez, dit Herminie, épuisez toute la famille, vous en trouverez le reste sous le kiosque et le bouton. Madame Baudésime y est avec elle, et Monsieur Vitalis, Pascal aussi, je pense. N'est-ce pas votre ami ?»« En effet, répondit Cérisole, et il s'éloigna du croquet qui lui faisait horreur. « Vous n'avez fait que passer, monsieur, l'année dernière, lui dit Vassilida. Est-ce que votre ami Vitalis sera plus heureux cette fois ?»« Je l'espère pour moi-même, répondit-il, et je suis venu pour soigner mes nerfs, détestables, parmi d'heureuses gens qui n'ont que faire de leurs os. Pensez-vous donc, monsieur, que nous vivions une éternelle bergerade ?» C'est justement ainsi que j'imaginerai ma mort. Rien ne s'y passe, je le jure, que pareil à un roman blanc entre gens qui s'aiment toujours. Et de tous ces cœurs bien réglés, que rien ne gonfle, on n'en trouverait aucun en l'ouvrant, qui nourrisse un rêve, un remords peut-être. Il la contemplait cependant comme s'il s'attendait à quelque chose. C'était un amateur de visage, Jean de Cérisole, et qui croyait bien connaître celui-ci. Enfin, il vit pointer, à son désir, les dents de la jeune femme sur sa lèvre qui s'empourpra. Mais il découvrit aussi dans ses yeux ces beaux yeux bombés qui reflétaient, comme à Junon, l'extérieur des choses, un regard singulier. Ce fut comme si elle regardait, à travers lui, quelque chose derrière lui, flottante, mais si expressément qu'il se retourna. Et Vassilida, après quelques secondes mesurables, répondit de cette voix qui était pareille à un écho profond, « Un fantôme !» Dans le silence qui suivit, ce fut soudain sensible que Guiche et Vitalis s'entretenaient à part de leur côté. De nouveau, Cérizole, qui avait ses opinions sur les gens, guetta les dents blanches sur la lèvre rouge. Et de nouveau, elles apparurent. Guiche, les jambes croisées, le menton sur ses deux paumes, disputait avec son compagnon. « Ah, si vous vous mettez avec maman, du reste, ça ne vous profitera pas, elle ne peut pas vous souffrir. »« Merci. » « Qu'y a-t-il, sauterelle ?» demanda Madame Bonésime. La jeune fille se tourna tout d'une pièce, comme sur un tabouret de piano. Son col de guipure laissait voir un peu de chair couleur de pistache et devinait à travers le linge toute jolie voire aux pénombres bistrées. Sa robe était d'un écossais émeraude, épinard et bleu, comme ses bas dont on laissait beaucoup voir cette attitude qui lui relevait les genoux. Ayant souri à Basilida, elle regarda avec une ingénuité peut-être équivoque et jusqu'à le gêner, Cérizole, dont les regards ne pouvaient tout à fait démentir qu'il voyait des bas à carreaux, mais fort avant. Peut-être les aimait-il. « C'est ainsi qu'il prend des airs, » expliqua-t-elle en désignant Vitalis avec son menton pointu, « de trouver que je parle mal parce que je lui demande s'il y a beaucoup de cocottes ces jours ici à Ribamour. » Madame Bonésime fit les gros yeux et personne ne répondit. Sabine haussa un peu les épaules et reportant sur l'étranger des prunelles si claires, si profondes, si variables qu'elles faisaient songer à ces fontaines dans le roc où l'on voit au fond d'un abîme des noirs bouillonnés. « Mais dites-le moi, monsieur de Cérizole, » fit-elle. « Oh, mon Dieu, mademoiselle, je ne sais pas, mais peut-être qu'avec du papier... » « Non, je vous parle des vrais qui ont des chapeaux et qui marchent sur la pointe. Oh, que ça m'amuserait de voir comment vous vous tenez ensemble quand vous êtes seuls. »« Pouf !» fit-il d'un air de doute. « Très peu même, » ajouta Vitalis, qui haussa les épaules en déclarant qu'il avait un mot à dire au père. « Ah, et moi aussi, » dit Madame Bonésime, « à propos d'un livre. » « Ah, c'est donc votre directeur ?» demanda Guiche. « Oh, directeur, » répondit Basilida, « c'est bien ambitieux. En province, nous nous contentons de confesseurs. » Tous deux s'éloignèrent, laissant Guiche seul avec Cérizole, qui n'en sembla point enchanté, car au contraire des hommes en général, il ne faisait point profession de pâmer devant ses bêtes, et singulièrement les petites filles. « C'était si amusant de se confesser, » continua celle-ci inopinément, « de leur dire des choses. » Cérizole, surpris du timbre et, si l'on peut dire, de la physionomie de sa voix, contempla ce visage si mobile que les moments, les aspects en étaient insaisissables. « Bon, je ne vous absoudrai pas sans pénitence, » dit-il, « peut-être sans discipline. » C'est d'ailleurs la principale force des armées. Un éclair de rancune passa dans les yeux de la jeune fille. « Aidez maman, » dit-elle. « Ah, tyrannie ! Et quand on est délivré des terreurs, des larmes de l'enfance et des mains maternelles, c'est pour tomber à celle des hommes. Les hommes qui, indulgents entre eux, sont inexorables pour nous. » « Mais c'est de l'éloquence, » interrompit Cérizole de sa voix sarcastique. Guiche était lancée comme une cavale échappée du paddock. Elle n'écoutait rien. « En voilà un !» Et du pouce, elle indiquait Vitalis, éloigné près de la notaresse. « Sous prétexte que nous jouons, enfants à femme et à mari, il se donne des airs de ne rien pardonner. » « Déjà ?» demanda l'autre. Sabine devint rouge et sa joue comme une pomme mûrissante d'un vert ivoire où commencent l'écarlate à poindre.
« Et savez-vous, continua-t-elle, pourquoi il me faisait la tête ? Parce que je veux apprendre le violon, parce que je fais le poteau quand je suis seule avec mes chiens. »
« Le poteau, oui, le poteau, tout le monde fait ça. Vous vous tenez sur les mains, les pieds en l'air. Ça fait que vous êtes aveuglé par vos jupes.
Ah, je comprends, dit Cérizol, mes jupes. Mais non, enfin vous comprenez. Et puis il ne veut pas que je me promène seul dans le bois du moulin. Et puis, ah, enfin c'est un tyran. Que ferait-il de plus s'il était ?
Le jeune homme ne disait rien.
S'il était un mari, conclut-elle.
Ah, les mêmes choses, sans doute. Et vous aussi, à part le poteau. Mais ce bois du Boulin, il est donc tabou.
Ben, c'est loin des maisons. Il y passe des cheminots, des journaliers de la mine, et je pense de ces demi-dieux qui avaient les oreilles pointues. L'an passé, on y a fait du mal à une jeune fille, une couturière qui cherchait des champignons. On lui a... Je ne sais pas ce qu'on lui a fait. Oui, et pris son porte-monnaie.
Oui, peut-être en effet, serait-il plus sage de se promener ailleurs.
Mais c'est si beau, voyez-vous. Il y a un bouquet de chênes, surtout. Oh, de très vieux chênes, avec de grandes pierres qui font carrefour. Et on y est tout seul, tout seul. Tout seul d'homme, je veux dire.
Comment, tout seul d'homme, s'informa Cérizol languissamment. Il y a des lions, peut-être, comme dans la forêt des Ardennes.
Guiche secoua la tête. Est-ce que vous croyez à la mythologie ? Demanda-t-elle.
Oh mon Dieu, ça dépend de l'heure.
Vous riez, mais c'est une chose très vraie, au fond. En plein midi, l'été, quand les champs, les jardins, les bois sont immobiles de chaleur et que rien n'est en vie, rien que la source dans les herbes, avec sa voix cachée, ou bien cet oiseau, le martin pêcheur, qui ressemble à un bijou bleu lancé sur la rivière, alors il y a tant de choses qu'on devine autour de soi. Quelquefois, on dirait qu'il n'y en a qu'une, immense, qui respire et vous absorbe, comme si la terre tout entière n'était qu'une seule et même grosse bête. Alors, pour avoir peur, qui est si bon, on appuie l'oreille contre les vieux arbres, et l'on entend remuer ces espèces de dieux moitié bétail, qui dorment le jour, qui rêvent peut-être derrière l'écorce des chênes, à moins qu'ils ne s'échappent pour courir après les enfants. Mais comment les appelle-t-on déjà ?
Ben voilà, quand ils portent quelque chose, ce sont des télamons, on en fait des pieds de table et des consoles. Quand ils ne portent rien, eh bien, je suppose que c'est comme dans Malbrook, on n'a jamais su le nom du quatrième soldat.
Vous n'êtes jamais sérieux, dit-elle.
Mais si, excepté.
Et vous êtes méchant aussi.
Elle contemplait d'un air assombri Vitalis qui s'en revenait avec Madame Beaudésime. Il ne lui parlait pas, et comme il se tenait tout près d'elle, son pas, tout son corps pour ainsi dire, épousait le rythme de la jeune femme, et de même qu'on pense, après un concert, entendre ce que l'oreille ne distingue plus, peut-être Sabine les devinait-elle pareil à deux instruments qui vibre encore d'un accent évanoui. Cependant, Basilida, entendant marcher derrière elle, reconnut le père Nicole, qu'elle n'avait pas eu jusqu'ici le loisir de consulter sur sa lecture, et elle s'arrêta.
C'est un livre, expliqua-t-elle, que lui avait prêté M. Cassoubiel, avec d'autres bouquins, comme il disait.
Ils sont tous excellents, j'en suis sûr, dit le jésuite, sans spécifier davantage.
Il s'agissait du traité de la nature et de la grâce, de Malebranche, et qui, jadis, fut mis à l'index sous Clément XII, Pinactelli,
qu'on y avait oublié depuis sous la poussière sacrée d'une théologie dont les gens du monde sont moins curieux que dans le grand siècle. Et d'ailleurs, continua l'ecclésiastique, puisque M. Cassoubiel juge édifiant, mais je pense pas qu'il l'ait lu. Le père Nicole dissime mal un sourire. Faites ce qu'il fait, conclut-il, ne faites pas ce qu'il dit. Il s'approchait du kiosque. Vitalis, qui avait pris l'avance, devant un débat qui lui était obscur, y aidait Madame de Charite à servir le thé. C'est-à-dire qu'il échangeait la pince à sucre de place ou regardait le ciel à travers une carafe pleine d'un vin couleur de peau d'orange. « C'est que, reprit Madame Baudésime plus bas, j'aurais besoin d'un tonique en fait de lecture. L'imitation, c'est tout le contraire. Et puis je ne l'aime plus, à moins que je ne l'aime trop. » Bon, Madame de Chantal a dit quelque chose comme cela dans une de ses heures d'aridité. Mais si vous voulez, madame, je me permettrai de vous prêter un livre ou deux, plus que substantiel. Et avec un air de demi-interrogation, il ajouta « Sous l'aveu de votre confesseur. » N'ayez pas de doute, mon révérend père, à ce sujet. Il y a longtemps que M. Cassoubiel me laisse carte blanche. « Mais, pardon, interrompit le jésuite, n'est-ce point Jean de Cérisole que j'aperçois sous le kiosque ?» Le jeune homme, qui de son côté avait reconnu l'ecclésiastique, se leva pour venir au-devant de lui, et tous deux se mirent à causer, tandis que Guiche circulait, offrant des tasses. « Y a-t-il longtemps que vous n'avez vu votre cousin Château-Gaillard ?» interrogea le père Nicole, qui, naguère rue des Postes, avait tenté de diriger sur Saint-Cyr cet aimable meneur de cotillon à qui il donnait des répétitions. « Pas très, mon père, non. Je n'ai assurément pas besoin de vous annoncer un mariage que vous avez dû connaître avant moi. »« On m'en a fait part, en effet. Et c'est rassérénant, un mariage comme cela, bâti à l'ancienne. » Celui-ci est de ce solide appareil de demi-mésalliance à qui l'on a dû chez nous les purs foyers. Bon, merci, mademoiselle, non, les enivrements nous sont interdits. À moi aussi, mademoiselle, quand c'est de l'eau chaude. Oui, c'est comme ces angles dont la somme est toujours un droit. Armand de Château-Gaillard, fils posthume du colonel Château-Gaillard, brillamment tombé jadis sous la révolte de Bouhamema, épousait la fille d'un maître de forge. Oh, « Armand est tout de même un peu jeune, » reprit Cérisole. « Bon, voilà que vous cherchez des excuses à ne pas l'imiter. »« Mais mon père, » répliqua le jeune homme en riant, « c'est que je ferais un trop bon mari. » « Mais voyez-vous, rendant ma femme heureuse, mais je serais perdu de réputation. »« Bah, mais on peut toujours s'arranger pour faire souffrir les gens, » affirma Guiche, qui sauta à pieds joints dans le dialogue. « Vous n'auriez qu'à la priver de dessert. » Une fois de plus, Jean dévisagea la jeune fille avec un peu de méfiance. « Sabine, » interrompit Madame de Charite, « au lieu de nourrir la conversation, tu ferais mieux de désaltérer M. de Cérisole. Un doigt de vin d'Espagne, monsieur ?»« Mais maman, il n'y a que du Porto, et qui est en Portugal, » observa la fillette d'un air si insolent que Vitalis, pour un moment, ne lui trouva plus les jupes assez courtes. Cependant, elle avait apporté le vin sur l'assurance de Cérisole qu'il en boirait malgré la géographie. « Ah, ah, belle maman !» intervint tout à coup de sa voix grasse Etchepalao, qui revenait du tennis, « toujours printanière, et avant d'être aveugle, comme on connaît ses seins. » Il se mit à rire à grands éclats, tout en lorgnant le corsage fructueux de Madame de Charite,
qui, d'un air contraint, tâcha de sourire, tandis que Madame de Baudessime, assise à côté de Vitalis, murmurait quelques mots où sonne celui de goujaterie, et que Jean, l'ayant dévisagé avec sa languissante insolence, se versait du vin. Mais le jésuite, que cette compagnie, plus nombreuse qu'il le pensait, et peut-être moins discrète, effarouchait un peu, avait disparu secrètement.
Moi aussi, j'en veux, petite sœur, avait repris de chez Palao. Croyez-vous que ça ne donne pas soif de jouer le tennis 4 heures de rang? Voyez ma chemise, tenez.
Non, dit Sabine.
Ben, si c'était belle maman, elle en serait comme au sortir de la douche, à part, bien entendu, et tout, sauf votre respect, l'abbé. Tiens, où est-il passé, le ratichon?
Tenez, dit Guiche en lui versant à boire pour qu'il se tue.
C'est que je ne suis pas une sauterelle, moi.
Et vous chaud, intervint le capitaine La Harane.
Quoi que ça, tout bafflu que vous êtes, vous vous remuez pas mal au tennis, jambes de ci, bras de là, balle dehors. Ben, j'ai ça dans le sang, voyez-vous. Vif comme le pétrole.
Il est certain, dit Cérizol, qu'avec de l'entraînement, vous auriez fait un sauteur, un joli sauteur, oui, et l'habitude des affaires.
Vous rigolez, mais c'est vrai au moins. Tenez, voulez-vous faire un bête de nigueux?
Voyons, Wolfgang, s'écria sa femme, tu as déjà fait fuir le père avec tes clameurs. Laisse M. de Cérizol tranquille, il est à Ribabourg pour se reposer.
Et je me moque, moi, je défie tout le monde sur la pelouse, à pieds joints, ou avec élan. Le champ contre le chez pas là-haut, voyez la côte.
C'est trop loin, le tennis, fit Cérizol. Mais je vous parie un goûter sur l'herbe pour tous ces messieurs dames.
Quoi, pour tout le monde, reprit le chez pas là-haut, dont les instincts de paysan basque se firent jour. Et il gagnerait toujours alors. Espèce de rapia, vous ne voulez pas jouer un pique-nique? Je vous parie un goûter, donc, si vous ne sautez pas ça. Et la balustrade, bien entendu.
Et du doigt, il indiqua le guéridon rustique, couvert de tasses de cristaux de pâtisserie, et derrière, entre le toit de chaume et la galerie de bois, un vide de 2 mètres environ.
Poussière, sortez, madame, cria-t-il à la comtesse Alonka, qui était assise auprès.
Oh, mon Dieu, mon cher, fit la polonaise saisie.
« Et ma vaisselle !» implora Madame de Charite.
Et sa vaisselle, en effet. Déjà Wolfgang, d'un élan formidable, après quelques bas de course, avait sauté et donné de la tête contre une solive, d'où il retomba, parti sur le guéridon, parti sur la négresse, éclairant le monde. Un fracas de verre de céramique brisée, les jurons d'Etche Palao que la harane relevait en riant, les cris des dames enfuies qui levaient leurs jupes ce bel air dans l'heure du soir. Seule Madame Etche Palao ne bougeait point. Adossée au balustre, elle contemplait Cérizol d'un air qui l'étonna. Elle le remerciait si visiblement de la part qu'il avait prise au désarroi de son mari, et le sourire de sa bouche était si soumis, ses yeux si caressants, qu'il la vit tout à coup comme elle était, charmante. Il s'approcha d'elle et, lui baisant la main comme s'il prenait congé, « Je vous demande pardon, » dit-il, en souriant aussi. Les ombres étaient déjà longues sur la prairie dont elle semblait ronger l'herbe d'or, tandis que plus bas, un brouillard laiteux se levait sur la rivière.